à la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie, qui est à l'abbaye d'Ourscan dans l'Oise. Donc j'ai 61 ans et mon ministère m'amène surtout à accompagner beaucoup de couples vers le mariage, à prêcher les retraites, j'en prêche une ce week-end, de préparation au mariage, d'accompagner aussi dans le discernement, en amont des fiançailles, et puis de m'adresser à votre génération, aux jeunes pros. J'aime beaucoup votre génération parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses que vous avez à vivre et que vous aurez apporté une fois les années passant, ben voilà, il y aura quelque chose de très fort à vivre pour ce monde qui vient, d'où l'importance de se former, d'où l'importance d'être attentif à nourrir son cœur, à nourrir sa foi, son intelligence, l'intelligence de la foi, de façon aussi à être armé pour les temps qui viennent, qui ne vont pas forcément être des temps faciles, mais comme chrétiens, nous avons davantage de munitions, si on peut dire, en tout cas de billes, davantage de capacités de pouvoir répondre et aussi une vision claire de ce vers où nous voulons aller et ce que nous ne voulons pas aussi prendre comme chemin. Alors, le thème de ce soir, c'est la volonté de Dieu. Dieu a-t-il un plan sur nous ? Voilà, c'est un peu cette question-là qui va nous habiter toute la soirée. La première chose que j'aimerais bien dire en introduction, reprendre le jeu de mots du prédicateur du pape, le père Rainero Cantalamessa, qui parle de Dieu comme un GPS, guidé par le Saint-Esprit. Je trouve le jeu de mots bien bienvenu, dans le sens où je crois profondément que le Seigneur nous appelle à travers aussi nos choix et à travers nos manières de ce que nous pouvons expérimenter à l'intérieur. Découvrir le plan de Dieu, à mon avis, ce qui me paraîtrait une erreur, c'est voir la volonté de Dieu comme extérieure à nous-mêmes, comme un but à atteindre, avec jouer un cache-cache avec le bon Dieu, ne sachant pas où aller, étant comme vraiment avançant à tâtons. Je ne crois pas que ce soit comme ça, en tout cas ce n'est pas comme ça que je le vis personnellement. Au contraire, moi je vous invite à être beaucoup plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, à ces dimensions, ce qu'on appelle les motions du Saint-Esprit, c'est-à-dire les mouvements du Saint-Esprit en vous-même. Vous avez certainement des warnings qui vous s'allument en vous et qui vous disent « non, ne va pas dans telle direction ». Par rapport à un choix de vie, par rapport à un choix professionnel, etc. Et au contraire, vous avez des feux verts qui s'allument pour vous dire, voilà, c'est plus vers là que je dois aller. Et donc, la question de la volonté de Dieu, je crois que c'est beaucoup dans ce dialogue entre le Seigneur et nous-mêmes et dans cette attention aux émotions qui nous habitent. Ça, c'est très ignatien. Saint Ignace de Loyola a lui-même été très attentif à dire que les émotions sont des lieux aussi où Dieu se révèle. Et donc, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir discerner, être attentif. Ça veut dire aussi être connecté à nous-mêmes et faire attention de ne pas vivre extérieur à nous-mêmes, ne pas être des personnes qui soient entraînées par des forces centrifuges. Et les forces centrifuges, on sait bien que dans le monde, il y en a beaucoup, que ce soit l'appel à être extérieur, de ne pas être connecté à soi-même, le perfectionnisme, l'activisme, l'hyperactivité, etc., qui fait qu'on devient des personnes ignorantes de nous-mêmes, hein, d'une certaine manière. Et donc ignorant de ce qui se passe à l'intérieur. Donc de découvrir que nous avons un monde intérieur et que ce monde intérieur est le lieu de la rencontre. Ce monde intérieur est le lieu aussi de l'indication vers où le Seigneur veut nous conduire. Ne vous attendez pas une recette magique à l'issue de cette conférence. Attendez-vous plutôt à peut-être à des points, à des faisceaux d'indices. Moi, j'aimerais bien vous livrer ça. Des faisceaux d'indices qui peuvent vous aider à être attentif à ce que le Seigneur, comment le Seigneur se manifeste à nous. Je parlais de motion intérieure. Le pape François, par exemple, quand il était élu pape, eh bien, habituellement, les papes vont dans ce qu'on appelle le palais apostolique. Peut-être vous voyez sur la place Saint-Pierre, ce palais immense, et de la fenêtre, le pape donne sa bénédiction, ubi et orbi, etc. Et c'est là qu'habituellement, les papes logeaient. Sinon que lui, quand, après son élection, on lui dit « Saint-Père, on va vous conduire à vos appartements », il a écouté en lui un grand non. Non, N-O-N. Je n'irai pas. Je n'irai pas, et je trouve que ça illustre bien un peu, jésuite et donc à l'école de Ignace de Loyola, c'est évident, il a l'habitude de repérer en lui ses motions. Il dit non, je n'irai pas au palais apostolique, non pas comme vous l'imaginez, un caprice d'adolescent, mais il a expliqué pourquoi. Parce que depuis des générations de papes, je veux dire, c'était le lieu habituel de leur résidence. Et il dit, ben voilà, en fait, je me suis aperçu que le pape, là, il est prisonnier. Et il devient inaccessible. Moi, je veux être accessible. Et donc, il a décidé de rester à la maison Sainte-Marthe. La maison Sainte-Marthe, qui est une maison de retraite spirituelle au Vatican, là où sont accueillis les cardinaux pendant le conclave, etc. Et de rester dans cette maison, on lui dit, écoutez, préparez-moi un deux pièces, et ce sera là où j'habiterai. Et pour travailler, pour recevoir les chefs d'État, etc., etc., j'irai au palais apostolique. Mais je trouve que c'est une belle illustration de l'expression aussi de la volonté du Seigneur. Comment le Seigneur nous conduit. Tout à l'heure, bon, vous aurez un temps d'échange entre vous aussi. Dans quelle mesure vous avez eu aussi cette expérience de warning, de aussi se faire confiance à ce qu'on ressent. Et ça, bon, ça passe aussi par la partie un peu psychologique d'une certaine manière, mais d'avoir une certaine confiance dans ce qui nous habite et comment le Seigneur nous guide à travers ces émotions qui nous habitent. Hein, ou à travers ce qu'on... Voilà, je me souviens, là, j'avais fait faire un choix plutôt pour des questions matérielles à l'abbaye, etc. Il y avait une société qui s'était présentée, mais je ne le sentais pas du tout. Et cette entreprise-là, etc., je commençais à cheminer avec elle, à voir qu'est-ce qu'elle proposait, et plus ça allait, plus j'étais angoissé. Et du coup, alors, je ne suis pas de nature anxieuse. Du coup, je me dis, non, ça, ce n'est pas le Seigneur qui veut ça. Donc, ça ne me met pas dans la paix, ce n'est pas le Seigneur qui veut ça. Et donc, j'ai terminé la collaboration avec cette société. Mais je trouve ça intéressant d'être attentif justement à ce monde intérieur, d'être attentif à ce monde des émotions, ce qui nous vient. Hein. Ne soyons pas des analphabètes de nous-mêmes. Hein. Parce qu'à travers ça, justement, le Seigneur guide et nous en conduit dans un sens. Il passe par notre humanité. Il passe par notre humanité. Il passe par aussi nos erreurs. Je crois beaucoup que la volonté de Dieu, ceci passe par nos erreurs, par, comme on dit, vous avez entendu l'expression Dieu trace des chemins droits avec des lignes courbes. Eh bien, c'est profondément vrai. C'est-à-dire, même si nous avons commis des erreurs, même si nous estimons que nous sommes trompés de chemin, alors que nous avions eu des avertissements de ceci, de cela, le Seigneur continue d'appeler. Et il n'appellera pas sans que vous soyez au courant. Il ne vous gardera pas, il ne vous guidera pas sur le chemin sans que vous soyez les premiers concernés. Et ça, c'est profondément rassurant. C'est profondément rassurant. Parce que c'est justement, il n'y a pas un côté, j'allais dire, angoissant de dire, ben voilà, j'ai comme une sorte de raidissement intérieur, d'angoisse, de dire bah, je vais louper la bonne porte et ce sera fini, quoi, parce que voilà, le plan de Dieu pour moi. Non, ce plan de Dieu, c'est d'avoir un plan de bonheur, et c'est un plan qui a à voir avec l'Évangile. Et donc, posez-vous la question, voilà, qu'est-ce qui est le plus conforme avec l'Évangile? Et ce qui vous demande, et le choix que vous faites, eh bien, ce choix-là, eh bien, est-ce que vous sentez que ça vous rapproche du Seigneur ou ça vous en éloigne? C'est juste aussi quelque chose, quelque part, qui a à voir avec le bon sens. J'aimerais aussi vous donner peut-être deux grands faisceaux d'indices, des critères de discernement pour la découverte de la présence de Dieu et de la volonté de Dieu. Des critères qui peuvent être subjectifs, c'est-à-dire qui vous habitent intérieurement, et des critères qui sont objectifs. Des critères qui sont subjectifs, c'est-à-dire qui habitent le sujet qui discerne. D'abord, premièrement, soyons attentifs au désir, à notre désir. Encore une fois, c'est par là que le Seigneur appelle. Dieu appelle en faisant naître de nous des bons désirs, nous engager dans telle ou telle voie. Sachons écouter notre cœur, ce qui est source de bonheur, ce qui nous rend profondément heureux. Laissons-nous enthousiasmer par le beau, le vrai, le bien. N'éteignons pas l'esprit. Voilà, c'est cette écoute de mon désir, sachant que le désir de l'autre est différent, et sachant que à travers ce désir que je peux avoir de faire le bien, le beau, le vrai, il y a quelque chose d'unique de la manière que j'ai de l'incarner. Et cette manière unique de l'incarner, ce désir, eh bien, si je ne fais pas assez confiance à ce que je porte, eh bien, il y aura une place manquante, hein, dans ce monde, parce que la manière dont j'ai de mettre en œuvre le bien, le beau, le vrai, m'appartient. Et si je ne vais pas dans ce sens-là, pour X raisons, il peut y avoir beaucoup de peur, par exemple. Il peut y avoir, je peux voir que le Seigneur m'appelle à telle ou telle chose, mais je me laisse embarquer par la peur. Je ne fais pas confiance à la présence de Dieu, et qui, on va voir, qui est un des éléments évidemment majeurs, hein, de la découverte de la volonté de Dieu pour nous. C'est une question de confiance. Du coup, il y a quelque chose qui restera inachevé. Oui, il y a quelque chose qui restera. J'aurais pu apporter une pierre à ce monde, mais parce que pour X raison, je ne suis pas allé jusqu'au bout du désir que je porte, eh bien, voilà, il y a quelque chose d'inachevé. Et voilà. Donc, je pense que soyons attentifs à ça. Hein. Donc, ensuite, c'est important d'arriver à une sorte de certitude intérieure. Et dans son cœur, on ne prend pas de décision comme ça, découverte de la volonté de Dieu dans le brouillard. Hein, il faut avoir une certaine lumière dans notre intelligence suffisante pour agir. Cette certitude intérieure va permettre de traverser les crises pour faire mémoire de l'appel du Seigneur et de cette volonté de Dieu. C'est important, ça. Parce que si soit parfois des personnes qui font qui donnent des grands gouvernails dans leur vie, bon, pourquoi pas, si c'est ce vers quoi le Seigneur les appelle. Mais s'il n'y a pas eu cette certitude que c'était vraiment un appel, et qu'à un moment donné, j'avance, ben, au début je vais à droite, ensuite je vais à gauche, etc., et que je n'ai pas cette certitude intérieure, l'intelligence n'est pas suffisamment éclairée, eh bien, je me retrouve au milieu du guet, et je me retrouve au milieu du guet, je me dis, mais pourquoi j'ai choisi ce chemin? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve là, et je ne sais pas précisément, parce qu'il n'y a pas eu cette certitude. La certitude, elle vient de la finalité, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de clarté. Alors vous me direz, et c'est là où nos natures, nos psychologies sont parfois blessées aussi, c'est que il y a des personnes qui sont plus anxieuses que d'autres, il y a des personnes qui sont insécures, il y a des personnes qui, voilà, qui doutent de leur ombre, et choisir entre un pain au chocolat et un pain au raisin, c'est au moins une bonne heure de discernement, si vous voulez. Donc du coup, vous dites, bon, et ces personnes-là ne peuvent pas grand-chose. C'est quelque part, ça a à voir avec leur nature. Alors, ça peut s'expliquer, les psychologues expliquent ça magnifiquement, mais bon, toujours est-il que, bien souvent, ces personnes-là resteront souvent, mais longtemps, hein, dans une certaine incertitude, soucis après de se faire confiance, etc., ce qui est aussi tout un chemin intérieur. Que faire dans ces cas-là? Que faire dans le cas où on se reconnaît dans cette personnalité insécure, et donc avec peu de confiance en soi, et donc peu de confiance dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on perçoit dans notre vie intérieure. Il me semble que ce qui peut aider, c'est de vous fixer sur des questions, les critères que je vais vous donner après, qui sont des critères objectifs. C'est pour vous fixer sur des critères objectifs de discernement, et parce que la partie subjective, comme elle est tellement brinque-ballée de partout, comme elle est peut-être, vous êtes tellement dans l'indécision, des personnes indécises comme ça, au moins que la question objective, c'est-à-dire ce qui est visible par tous, cette question-là, vous puissiez quelque part faire mémoire de ces critères-là qu'on va voir après, de ces critères objectifs, en disant, non, je peux pas ne pas dire qu'il y a tel événement, telle chose que je peux nommer, telle rencontre que je peux décrire, qui m'ont montré un chemin. Et ça a été pas seulement moi qui l'ai vu, mais d'autres aussi qui l'ont pu le confirmer. Donc, c'est intéressant, cette certitude intérieure, c'est un cadeau, c'est une grâce. Évidemment, elle est importante dans les grands choix de vie. Hein, les grands choix de vie, c'est quelque chose qui est important d'avoir cette certitude. Mais j'allais dire, dans les plus petits choix, et je pense que progressivement, d'apprendre à se faire confiance et de dire, découvrir aussi, j'ai aussi un outil de discernement à l'intérieur, comme une boussole qui me conduit dans un sens ou dans un autre. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Et cette certitude intérieure, elle va me permettre de traverser les crises, hein, de faire mémoire. Alors, je vous l'ai dit comme ça, si je suis bloqué au milieu du gué, je sais pourquoi j'ai pris tel chemin. Un autre point qui est intéressant, c'est la rectitude d'intention. La rectitude d'intention, c'est-à-dire quand on prend une décision, c'est vraiment avec un désir, comme je le disais au début, de construire le bien, le beau, le vrai. C'est vraiment avec une rectitude d'intention. C'est pas juste quelque chose à laisser pour voir comment ça se passe. Ou dire, même s'il y a des dégâts collatéraux auprès des personnes qui m'entourent, peu importe, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, que cette rectitude d'intention vous habite. Hein, que ce désir d'avoir une intention droite soit là au rendez-vous. Ensuite, comme aspect plus intérieur, subjectif, un autre aspect, je l'ai déjà évoqué, c'est la question de confiance et d'abandon à la Providence. C'est cette disponibilité intérieure, cette humilité de fond. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous vous rappelez, Saint Paul, au moment de sa conversion, etc. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà, c'est cette disponibilité. C'est ce que Ignace de Loyola appelait aussi la sainte indifférence. Alors, il faut faire attention parce que les mots sont piégés, mais la sainte indifférence, c'est pas l'indifférence. La sainte indifférence, selon Ignace de Loyola, c'est cette attitude où ce à quoi je suis attaché, je le dépose au pied du Seigneur. Pour être comme une attitude de disponibilité, de me laisser modeler par lui. Et de voir progressivement dans la prière qu'est-ce qui émerge. Qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce que le Seigneur me manifeste, parce que si il nous parle dans l'Écriture, mais il nous parle aussi dans la prière. Et donc du coup, cette sainte indifférence, c'est, j'allais dire, surtout dans les grands discernements, encore une fois, c'est de choix de vie. Vous savez, il y a trois grands discernements à faire dans sa vie. Il n'y en a pas quatre, il y en a deux. Il y a trois grands discernements. Il y a le discernement de l'état de vie. Il y a trois grandes décisions à prendre. Le discernement de l'état de vie, et quand je dis l'état de vie, c'est l'état de vie matrimonial, l'état de vie dans le célibat consacré, quelles que soient les formes. Et puis ensuite, il y a le discernement de la profession. La profession, évidemment, ce n'est pas mettre sous le même plan, l'état de vie, mais la profession, mine de rien, ça dirige beaucoup de choses. La profession, ce n'est pas du tout anodin. et changer certains. J'ai cru comprendre que celui qui va nous présenter le cognac a fait un changement, une sorte de reconversion professionnelle. Bon, et peut-être que ça a été le cas de certains d'entre vous, pour avoir un peu plus de sens à leur métier, etc. Mais la question du choix du métier est un grand choix, est un des grands choix de parmi les grands choix. Et puis ensuite, le choix de Dieu dans sa vie. Le choix de Dieu, d'une certaine manière, la foi, c'est un choix. C'est une grâce, bien sûr, mais c'est un choix. C'est un choix. Et donc, il y a trois grands choix à faire. Le choix de l'état de vie, le choix de la profession, le choix de la foi, bon, qui sont sur des plans évidemment différents. Mais c'est intéressant de nous laisser interpeller par ça et de dire voilà, où est-ce que j'en suis par rapport à ces trois points-là. Est-ce que j'ai encore à prendre des décisions dans ma vie? Un autre point qui est intéressant, justement, sur ces dimensions intérieures, c'est la paix et la joie. C'est la paix et la joie. Mais, alors, cette paix et cette joie peut venir après des tempêtes. Mais justement, comment, par exemple, vous avez pris une décision de changer de profession, on va prendre un exemple, de changer de profession, vous avez eu comme une sorte de conviction que c'était ce chemin-là qu'il fallait, ou pas, cette entreprise-là qu'il fallait choisir, et puis arrive une sorte de tempête intérieure, arrive une sorte d'incertitude intérieure, de même évidemment, bon, plus classiquement, dans les relations amoureuses. Voilà, vous vous dites, bah oui, c'est bien cette personne-là avec qui je veux construire ma vie, et puis arrive un moment de juste peut-être avant les fiançailles, qui sont quand même, pour beaucoup d'entre vous, un moment privilégié. Bien, du coup, donc, c'est intéressant, comment aborder les tempêtes, hein. Vous vous rappelez, dimanche dernier, c'était la question de la tempête apaisée, comme évangile. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes que ce n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des tempêtes que ce n'est pas de Dieu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments de tempête et continuer à être appelé. Mais aussi, un autre point qui est important, c'est ne pas remettre en cause dans la tempête ce que l'on a discerné en pleine lumière. C'est ne pas remettre en cause dans la tempête ce qu'on a discerné en pleine lumière. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à une forme de certitude intérieure dont j'ai parlé, à voir un peu bon. Et puis, finalement, ça a été quelque chose où vous êtes, comme je me rappelle très bien, en rentrant en communauté, par exemple, comme une sorte de boule au ventre, vous voyez, alors que c'était très clair, pour moi c'était d'une clarté. Seigneur, c'est absolument clair pour moi, etc., la manière dont Dieu m'a appelé, etc. Mais j'arrive en communauté, bon, et là, comme pris d'une angoisse, bon. Et ne pas remettre dans la tempête ce qu'on a discerné en pleine lumière. Et je pense que c'est un des critères qui vous permet aussi d'avancer. Hein, et de voir que cette joie et cette paix intérieure, elle est plus profonde que ce que l'on peut voir au plan simplement psychologique, quoi. C'est une joie, une paix spirituelle. Et puis, je trouve aussi comme discernement de la volonté de Dieu, d'être attentif à ce que l'on a une certaine facilité de faire, hein, une certaine facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle. Hein, voilà, si par exemple, je prends l'exemple d'une relation affective, vous sentez qu'il faut vous arracher le moindre geste, vous sentez qu'il faut prendre des gants à tout moment, vous marchez sur des œufs et que le naturel n'est plus là au rendez-vous, ben posez-vous la question si c'est la bonne personne. D'avoir une certaine face, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous aimez facilement, qu'est-ce que vous faites facilement. C'est quoi un charisme? Un charisme, c'est faire facilement ce que les autres font difficilement. Et vous avez des charismes. Et donc, interrogez-vous, quel est votre charisme? Ça peut être un charisme d'accueil, ça peut être un charisme d'écoute, un charisme d'enseignement, un charisme d'organisation, un charisme de compassion, etc. Un charisme de prière. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire facilement? Et qu'est-ce qui se fait bien? Et vous voyez que ça fait du bien autour de vous. Ben, posez-vous la question, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose que le Seigneur vous donne comme une lumière pour, sur votre chemin pour prendre une décision, en tout cas aller dans un chemin, dans un sens ou un autre. Je trouve que c'est assez intéressant cette question de facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à des choses que l'on ne pourrait pas faire. Je me rappelle comme ça un jeune qui était rentré en communauté, etc. Mais les frères sentaient que c'était trop difficile pour lui. Il voulait absolument rester en communauté, mais il était tellement anxieux, tellement... Vous voyez comme à un moment donné, comme si c'est quelque part à la force du poignet. Comme une certaine... voilà, oui, il faut absolument que j'y aille, voilà, c'est comme un défi, etc. Bon. Jusqu'à un moment donné, on lui dit non, c'est pas comme ça que le Seigneur appelle. Avoir une certaine facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle. Et donc, on lui dit, mais écoute, non, nous semble que ton chemin n'est pas dans notre communauté, voire n'est pas dans la vie religieuse. Et le fait aujourd'hui, bon, il a choisi la vie matrimoniale, etc. Mais c'est intéressant de dire ça, d'avoir... on voit des personnes comme ça qui sont très à l'aise, avec des charismes simples, des charismes tout simples, des charismes d'écoute, des charismes de... Le charisme du détail, par exemple. C'est un charisme, des gens qui voient le détail des choses, etc. Et donc une attention dans le détail. Donc, posez-vous la question, quels sont vos charismes, et à travers vos charismes, en quoi le Seigneur vous trace un chemin. Ça veut dire aussi, par rapport à le fait d'être assez stable dans la tempête, d'apprendre à prendre une certaine distance avec ses propres émotions. Et ça, c'est un point qui est important. Et qu'est-ce qui permet de prendre la distance avec les émotions? C'est pas, encore une fois, les émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais c'est pas elles qui ont le gouvernail. C'est pas l'émotion qui a le gouvernail. Hein, ce qu'est le gouvernail, c'est l'intelligence et la volonté. L'intelligence et la volonté, qui sont un don de Dieu, ce en quoi nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu capable de connaître et capable de vouloir, c'est-à-dire capable d'aimer, hein, aimer et connaître, hein, c'est ce qui nous rend à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, d'être assez attentif à ce que les émotions ne viennent pas comme submerger, vous voyez, l'intelligence et la volonté, l'empêchant d'avancer dans un sens ou dans un autre. Hein, et donc, il y a tout un travail à faire, parfois avec l'aide de professionnels aussi, hein, de personnes qui peuvent vous aider professionnellement, parce que vous sentez que, au niveau de votre sensibilité, personnes sont extrêmement sensibles, je suis très très sensible, etc. Mais du coup, ça vous parasite beaucoup le discernement. Vous sentez que ça, du coup, d'arriver à une certaine paix intérieure, et voilà, donc... Un autre point dans les critères subjectifs, on est toujours dans ces critères du sujet, un peu, c'est l'expérience d'une certaine disproportion. Ça, c'est important, l'expérience d'une certaine disproportion, c'est-à-dire que en fait, dans la vie chrétienne, tout, j'allais dire, est hors de portée. Nous sommes la religion du vertige. Nous sommes la religion de la disproportion. Il n'y a pas de commune mesure entre ce que nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés. Quand vous voyez ce que ça veut dire que règle d'être baptisé, par exemple, la présence de la Trinité en nous, on dit, mais qui on est pour... Et nous sommes les seuls, les chrétiens, en tout cas, à croire en la présence de Dieu en nous. Hein, nous sommes des tabernacles, etc. Vous trouverez toute une littérature là-dessus. Hein, et d'où aussi l'importance de cette descente intérieure pour découvrir l'hôte divin qui habite en nous. Oui, donc, je trouve cette disproportion, il y a toujours une... ça nous dépasse. Ça nous dépasse, mais on est appelé. Ça nous dépasse, mais on est appelé. C'est quelque chose qui est bien plus grand que nous, et en même temps, on sent que c'est plus grand que nous, nous attire. Il y a une sorte de grandeur d'âme en nous qui nous attire, qui nous pousse justement à désirer ce qui est plus grand que nous, et qui est plus grand que nous, si ce n'est l'amour de Dieu qui est plus grand que nous. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir être attentif sur ces questions-là de disproportion et dans la vie chrétienne, vous voyez, tout est... Oui, moi je suis très touché par les sacrements. Par les sacrements, parce que justement, dans les sacrements, il y a cette expérience de sorte de vertige, de choses qui te dépassent complètement, quoi. Dos sur le front d'un enfant, quelques paroles entre un homme et une femme, et puis c'est le ciel qui s'ouvre. Si vous êtes... Il n'y a tellement pas de commune mesure. Le sacrement, c'est vraiment la disproportion totale. Il y a quelque chose de très pauvre, très simple, et ensuite on vous dit, mais il y a tout le ciel qui est là. Waouh, c'est un truc impressionnant. Et je trouve que c'est... Et c'est pareil par rapport au choix que l'on doit faire, parce que parfois il y a des choses qui nous dépassent, mais c'est précisément notre vocation chrétienne d'accepter d'être dépassé. Hein, parce que nous sommes les familiers du vertige. Voilà. Un dernier point pour cette partie de subjective, les signes. C'est la question de discerner en fonction des signes. Et de découvrir la volonté de Dieu en fonction des signes. Ce n'est pas une question facile, les signes. Parce qu'il y en a qui voient des signes un peu partout, un peu là où, surtout là où ça les arrange. Il y a parfois des faux signes. Mais bon, en tout cas, des signes. Je crois qu'il y a des signes. Je crois que Dieu agit dans l'histoire. Dans nos petites histoires avec un petit H, comme dans la grande histoire avec un grand H, j'y crois profondément. Mais je crois aussi qu'il faut se faire aider pour valider le signe. Et valider le signe, c'est de se faire aider par un aîné dans la foi. Et là, on va voir ça dans les critères objectifs. On peut s'illusionner par rapport au signe. Je vous donne un exemple. Vous faites une retraite, etc. Et puis souvent dans des retraites, on tire une parole de Dieu. On tire une parole de Dieu et paf, vous savez pas quoi ? Vous êtes une fille, un garçon tient la même parole de Dieu que vous. Mon père, c'est pas un signe. Il faut qu'on aille ensemble, c'est évident, c'est un signe. On était en lieu de retraite, tout est aligné, mais c'est extraordinaire. Oui, peut-être. Peut-être que la personne qui a préparé avait pris de la confiture avant et avait des bois poisseux, ce qui fait que les mêmes paroles se sont collées, j'en sais rien. Bon, toujours est-il que, voilà, soyons attentifs à ce que. Mais je me rappelle, comme ça, c'est. Témoignage lors d'une ordination, il y avait un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel dans le ciel. Alors, vous savez peut-être le signe de l'arc-en-ciel dans la Bible. Le signe de l'arc-en-ciel dans la Bible, c'est le signe de l'alliance. L'alliance de Dieu, etc. Donc, voilà. Et pour les personnes présentes dans la célébration de l'ordination, qui connaissaient cette partie de la Bible, de l'arc-en-ciel, disent voilà, c'est un signe. Mais ceux qui étaient à 10 km, qui ont vu le même arc-en-ciel, évidemment, ils ont vu juste la lumière, le soleil qui décompose les couleurs à travers des gouttelettes d'eau, etc. C'est tout. Ça s'explique tout à fait scientifiquement, l'arc-en-ciel. Oui, donc, ça, je trouve ça intéressant de. La question des signes, peut-être vous échangerez là-dessus tout à l'heure, en tout cas, ils doivent être confirmés. Maintenant, j'aimerais bien passer à la question des critères objectifs, c'est-à-dire des choses que les autres peuvent voir. On a vu d'abord votre monde intérieur, s'il n'y a que vous qui pouviez le voir, maintenant on va voir ce que les autres peuvent voir extérieurement. Si le désir est vraiment lieu qui montre la volonté du Seigneur, la durée du désir est quelque chose qui d'objectif. Si vous êtes appelé de façon récurrente, si vous voyez qu'il y a des choses qui reviennent de façon récurrente en vous, ça se renouvelle. Je pense à la reconversion professionnelle, je pense un pas de plus dans la foi, peut-être pour ceux qui ne sont pas confirmés, vous faire confirmer, par exemple, etc. Dites-vous, ou le nom d'une personne. Il y a des personnes, des noms de personnes qui vous reviennent dans l'esprit, qui vous viennent à l'esprit, et régulièrement, ça vous vient, ça vous traverse, une personne, et vous dites, pourquoi est-ce que je pense à cette personne? personne là en ce moment, je n'ai pas vu depuis peut-être un an. Et puis ça me revient souvent. C'est, voilà, c'est, le fait d'être la durée du bon désir, à mon avis, est quelque chose, le désir qui persiste, qui revient, peut venir de Dieu. La présence de l'Église, je trouve c'est important, c'est la présence de l'Église qui aide à discerner. Et dans ce sens-là, alors, dans tout ce qui est consécration, évidemment, là, l'Église prend position pour dire si cette personne est apte justement à la vie consacrée, quelle que soit la forme. Mais je pense de façon plus simple, la question de l'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel, c'est justement vous aider à découvrir quelle est la volonté du Seigneur pour vous. C'est surtout ça, l'accompagnement spirituel. Comment Dieu agit dans votre vie? Et du coup, de relire avec votre accompagnateur, accompagnatrice spirituelle, de relire, ce qu'on appelle l'exercice de relecture, votre vie de mois en mois, ou tous les mois et demi, où vous voyez la personne qui vous accompagne spirituellement. Bon, c'est vraiment quelque chose qui est important. Si nous sommes la religion de la disproportion, nous sommes la religion des médiations aussi. Les chrétiens sont la religion des médiations. Nous croyons que Dieu passe par des médiations humaines, par la médiation du Christ en particulier, mais pas que. Je veux dire, par vos humanités, le Seigneur se révèle. Et donc, pareil, si vous avez un accompagnateur, un accompagnatrice spirituelle, que vous puissiez vous confier régulièrement et relire votre histoire et dire, tiens, qu'est-ce que vous avez? Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment un plus pour être attentif, d'avoir ce regard extérieur, de cette manière objectiver ce que vous portez à l'intérieur et vous, d'une personne qui évidemment est née dans la foi aussi, quelqu'un qui a une formation ad hoc pour vous accompagner, cet accompagnement. Et je trouve que souvent vous restez trop seul. De ce que je peux voir un peu, j'ai beaucoup de contacts, comme je vous l'ai dit, avec votre génération, mais vous restez trop seul. Vous restez trop seul, et le fait d'être seul alors fait qu'on avance plus difficilement dans la vie spirituelle. Et alors maintenant vous me direz, c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un et quelqu'un de disponible. En même temps, vous êtes à Paris, il y a des villes où c'est beaucoup plus compliqué de trouver quelqu'un qui soit un guide spirituel pour vous, mais en tout cas c'est peut-être valable à certains moments de votre vie. De remettre, je trouve, il y a une grâce de remettre sous le regard de quelqu'un qui partage la même foi que vous, de remettre votre vie et de lui demander de vous aider à discerner où est-ce qu'est la volonté du Seigneur. Donc cette question de l'accompagnement spirituel qui viendra objectiver ce que vous ressentez, qui viendra comme mettre un sceau sur votre désir et pourquoi pas aussi vous donner une certaine paix, vous apaiser dans les options que vous avez prises. L'accompagnateur spirituel ne prend pas la décision à votre place, évidemment. Il est toujours à pointer dans telle ou telle chose, éventuellement tel point, faites attention, si vous allez dans telle direction, c'est peut-être plus compliqué, et peut-être vous allez dans la souffrance aussi. Donc c'est quelqu'un avec lequel on est en dialogue et on remet sa vie, je fais ça régulièrement avec des personnes qui sont proches de l'abbaye. Moi, je suis donc à côté de Compiègne, et du coup, parce qu'il faut être assez proche aussi de la personne qui vous accompagne au plan géographique, du coup, de remettre régulièrement, tous les mois et demi, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vécu, ce quotidien en quoi le Seigneur est venu l'habiter et est venu vous tracer un chemin. Donc la question. Ensuite, un point qui est intéressant, c'est les circonstances et les nécessités. Les circonstances et les nécessités, c'est le philosophe Pascal qui disait, les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Et je trouve que, qu'est-ce qu'on appelle circonstances et nécessités? Circonstances et nécessités, c'est-à-dire c'est des choses que je n'ai pas choisies. des choses que j'aurais peut-être surtout pas choisies. Il se trouve que, par exemple, je n'ai pas été validé dans ma période d'essai. Il se trouve que j'ai vécu une rupture amoureuse. Il se trouve que j'ai eu un problème de santé, etc. Des questions où au contraire, je viens de rencontrer quelqu'un et je pense très sérieusement construire ma vie avec cette personne. C'est des choses, quelque part, que l'on accueille de la main du Seigneur, que l'on n'a pas choisi, mais que l'on voit comme un guide. C'est-à-dire les circonstances et les nécessités, nos guides spirituels, c'est avoir aussi un regard de foi sur les circonstances de votre vie. Parce qu'il peut y avoir toujours un risque, surtout les circonstances qui sont compliquées, d'être dans une attitude victimaire, si vous voulez, de se positionner comme victime. Et ce ne serait pas juste. Voilà, une attitude de foi, c'est dire, voilà, il y a cette circonstance-là, qu'est-ce que le Seigneur me demande dans cette circonstance-là? Le conseil des personnes qui nous aiment, si l'accompagnateur spirituel fait partie du conseil, le conseil des personnes qui nous aiment, c'est quelque chose qui est important. C'est que ce soit, et ce pour des choix professionnels, pour les choix amoureux, etc., pour les choix aussi dans la vie spirituelle, vous avez des personnes dont essayez de repérer autour de vous des personnes dont vous savez qu'elles ont un discernement assez sûr. Vous avez confiance dans leur discernement. Et du coup, de pouvoir demander, tiens, voilà, tu en penses quoi? Je pense changer de job, aller dans cette direction, etc. etc. La grâce vient beaucoup aussi le fait de s'ouvrir à d'autres personnes. C'est d'avoir cette humilité de remettre sa vie sous le regard d'autrui. Et donc, voilà, c'est le conseil de personnes qui, avec un peu le revers de ça, qui ne serait pas aller dans le bon sens, c'est changer toujours de personne. Si vous voulez. Il y a toujours des gens, justement, des gens qui sont tellement insécures, etc., avec peu de confiance en elles, ces personnes-là, eh bien, d'une certaine manière, elles ont toujours besoin de réassurance, on appelle la réassurance en psychologie, c'est-à-dire elles sont toujours en besoin de pouvoir être confortées, et donc elles vont de conseiller en conseiller, etc. Bon, ça, ce serait une manière qui n'est pas en place, parce que chacun va de sa propre son propre conseil, voilà, mais en tout cas d'avoir dans son état de discernement des personnes qui puissent vous conseiller dans lesquelles vous avez confiance. Quoi. Donc n'hésitez pas à consulter de ce point de vue-là. Quoi. Un point qui est important aussi, un autre point, dans la découverte justement de la volonté de Dieu, la formation spirituelle. C'est ce que vous faites ce soir en participant à cette soirée. Ce que je constate aussi dans l'accompagnement des jeunes pros, c'est ce gap entre la formation professionnelle, vous avez grandi, etc., beaucoup d'entre vous ont fait des études supérieures, voire pas plus 5, etc., voire plus, et puis la formation SPI. Et donc ce gap entre formation pro et formation SPI, où certains sont restés peut-être avec le catéchisme, ou la confirmation, etc., et reprennent, et ça je vois aussi, c'est intéressant, des gens qui, pendant la vie estudiantine, ont mis en off leur vie chrétienne, même s'ils avaient reçu un bagage dans leur famille, etc., mais bon, c'est rarement les moments les plus intenses de la vie spirituelle, la vie estudiantine, mais après, rentrer dans la vie professionnelle, je vois beaucoup, un certain nombre en tout cas, qui refranchissent de l'église, là, ils viennent aussi de demander de participer à des groupes, il y a tel groupe de jeunes professionnels, etc., comme SPNSP, comme d'autres, etc. Et c'est des groupes, dans pratiquement tout le temps, qui proposent des formations. Parce que justement, la formation aide au discernement. La formation aide au discernement. Tu vois. Le fait de se former et de s'informer, ça vous donne plus de possibilités, ça enrichit votre esprit et enrichit votre cœur. Évidemment, si vous êtes dans une démarche de discernement de la volonté de Dieu, c'est une vie chrétienne sérieuse. Ce que j'appelle une vie chrétienne sérieuse, c'est Voilà, avec la pratique des sacrements, avec une dimension de vie de prière, avec une dimension de lecture de la parole de Dieu. Voilà, on ne peut pas prétendre découvrir la volonté de Dieu, ou en tout cas être en quête de cette volonté-là, en étant complètement extérieur à soi-même, les analphabètes de soi-même, et en plus en étant complètement extérieur à une dimension spirituelle. Ça tombe sous le sens, quoi. Donc, une fille chrétienne sérieuse, je trouve que c'est vraiment aussi le garant d'un lieu où vous pourrez, pas un lieu d'appartenance dans l'Église, un lieu où vous pouvez planter vos racines et puis porter du fruit, etc. C'est ça qui aussi vous aidera à découvrir là où vous êtes appelé. Et pour un dernier point, et ensuite je m'arrêterai là-dessus, avoir les aptitudes requises. Avoir les aptitudes requises, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est la question que l'on pose, certains d'entre vous ont participé à des ordinations, et l'évêque diaconal ou sacerdotal, et l'évêque pose la question, a-t-il les aptitudes requises? Et donc le fait, justement, on me parlait de certaines facilités pour faire des choses, avoir des aptitudes, Dieu nous appelle en nous donnant les aptitudes, en nous donnant cette capacité. Et donc du coup, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif, travailler. C'est là où on voit aussi que le Seigneur nous appelle parce qu'on a les aptitudes de répondre à cet appel de Dieu. Voilà, je voulais juste terminer comme ça. Est-ce que ces quelques phrases, ces quelques réflexions vont peut-être soulever des questions et des demandes d'approfondissement ou D'accord, donc la question c'est la tempête, qu'est-ce qu'on fait quand elle dure trop? C'est ça? Est-ce que à quel moment il faut passer à autre chose? C'est ça un peu ta question? C'est à quel moment il faut passer à autre chose quand on est dans la tempête, etc. Bon, bah, ça, je pense que, vous imaginez bien, il n'y a pas de réponse toute faite pour tout le monde, mais c'est sûr quand même que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, doit se faire jour dans votre cœur une certaine paix, une certaine joie. Si vous sentez encore une fois que vous devez vous arracher chaque moment, que telle décision est vraiment contraint votre humanité, contraint votre personnalité à tel point que voilà, vous en souffrez de façon durable, je vous déconseille de vous engager dans cette ligne-là, parce que ça, c'est quelque chose que personnellement je ne vois pas comme une volonté de Dieu. Parce qu'encore une fois, une volonté de Dieu, c'est vivre du ciel, et vivre du ciel, c'est vivre de la béatitude. Donc c'est vivre une certaine joie sur terre, modeste par rapport à la béatitude, en tout cas, c'est pas vivre dans les tourments. Donc je trouve que c'est, à un moment donné, vous voyez que vous avez essayé telle chose, telle voie professionnelle, par exemple, tu as essayé telle voie, et puis à un moment donné, tu dis, c'est vraiment pas ça, à chaque fois, ça revient comme de façon lancinante, c'est peut-être bon de se poser la question d'une réorientation professionnelle, par exemple. Alors, par rapport, je répète parce que ça a été enregistré, par rapport aux circonstances et aux nécessités, la question c'est comment avoir un regard de foi et non pas un regard de victime, c'est ça. Le regard de foi, c'est de s'interroger, d'accueillir cette circonstance. Bien sûr, c'est les circonstances les plus difficiles qui sont compliquées d'accueillir, de dire mais qu'est-ce que le chemin. Qu'est-ce que le Seigneur me trace comme chemin à travers cette circonstance-là? Cette circonstance de santé, cette circonstance professionnelle, cette circonstance amoureuse, cette circonstance familiale. Nous croyons profondément que le réel est dans la main de Dieu. Oui, ce réel est dans la main de Dieu. Notre vie est dans la main de Dieu. Cette circonstance douloureuse que je traverse aujourd'hui, elle est dans la main de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? J'y vois pas clair. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux. J'y vois pas clair. D'être dans cette attitude de quête, un peu attitude mariale aussi. La Vierge Marie nous aide beaucoup dans cette dimension-là, de dire comment cela se fera-t-il. Oui, c'est dans l'Annonciation, on voit bien. C'est une jeune femme, etc., qui reçoit cet appel d'être la mère du Sauveur, alors que ce n'était pas son plan, je ne connais pas d'homme, etc. Voilà quelque chose que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi ça, et puis, mais comment ça se fait? Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant de se tourner vers Marie, de dire, tiens, cette attitude mariale qui questionne le réel, mais pas avec défiance, mais avec une certaine... le voyant comme un allié, vous voyez? Le voyant comme un allié, non pas le voyant comme un obstacle pour aller vers le Seigneur. Alors, la question, c'est, une fois qu'on voit le discernement et qui a été fait et dans quelle direction il faut aller, quels sont les marchepieds qui nous permettent de nous mettre en route, de nous mettre... Voilà. Je pense que ce qui est très important de dire, c'est que le discernement vise l'action. L'action qui peut dire, c'est peut-être pas le moment de passer à l'acte, mais le discernement vise l'action. Le discernement vise vraiment... le passage à l'acte, vraiment, c'est la décision. Donc, c'est pas juste la réflexion. On peut avoir une certitude intérieure, mais si ensuite je ne passe pas à l'acte, il y a quelque chose du discernement qui n'a pas été fait. Le discernement nous met en route, parce qu'il nous montre la lumière de la finalité, vers une lumière qui s'ouvre. Devant nous, il y a un chemin qui s'ouvre. Maintenant, quelles sont les différentes étapes que... je pense qu'il y a... Au niveau, ensuite, ça, c'est un peu difficile de répondre en général, mais je trouve que si c'est par exemple la question d'une réorientation professionnelle, c'est se mettre peut-être dans une étape de... il y a un certain nombre qui proposent de voir au niveau professionnel de quels sont vos talents, quels sont, etc. Il y a des coachings qui sont proposés par l'entreprise, où vous pouvez prendre vous-même. Si c'est au plan amoureux que vous avez discerné que c'est telle personne, etc., ça peut être commencé à croiser de plus souvent le chemin de l'autre. Donc du coup, c'est en fonction de ce vers quoi vous allez, ce que vous avez discerné. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre, ça c'est dans l'accompagnement aussi, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir accomplir ce que j'ai discerné. Parce qu'il y en a qui, parfois, des moments où on discernait, on a une clarté, mais ou mu par la peur ou par la paresse, se sont repliés sur eux-mêmes. Et donc, on manquait leur discernement.